Ah, le toc toc toc. À lundi où tout le monde a la tête ailleurs, y a-t-il eu, tiens, une grosse soirée hier à Europe 1. Tiens, Dimitri Pavenko, notre présentateur de la matinale.
Mais c'est un état d'esprit, ça montre une volonté. Et quand on veut, on peut. Et quand on peut, on veut. Doit.
Oh, évidemment. Oui, ben non, ça marchait pas.
Ouais. Ah oui, oui. Ah. Quand on peut, on doit.
Ouais, ça marche pas. Monsieur Bouc a balancé sur l'antenne nos échanges personnels du dimanche.
Le dimanche maintenant, Laurent Tessier.
Ah ouais,
le
ouais,
dimanche, ouais. Il m'envoie des photos à 20h30.
Oui, entre vous, vous en. C'est
on
bien.
On s'en va beaucoup
vous,
de photos.
Vous envoyez beaucoup de photos quelle pour vie. Savoir ce que vous faites.
Oui, mais tout sera habillé.
Ah oui, évidemment. Bon, prochaine soirée, on peut inviter l'équipe de Culture Média parce qu'au blind test, on est sûr de battre Thomas Hill et Anissa.
Pascal Pro, bonjour Pascal.
Jamais, n'avoue jamais.
Que tu l'aimes.
Vous savez qui chantait ça?
Bien sûr.
Oui, bien sûr, confiance totale de Thomas et Anissa. Alors oui, c'est qui?
Bien sûr.
Attends, Salvador Adamo, c'est pas
non.
ça?
Non.
Pas du tout.
Oh là là. Qui chantait N'avoue jamais? Oh là là.
Guy Mardel.
Guy Mardel.
Guy Mardel.
Exactement. Guy Mardel.
Jamais. Bon, pendant jamais. Ce temps-là, que fait Florian Karasoumaïan? Ah, Florian Karasoumaïan, un homme très occupé en coulisses.
Il a passé un bon week-end.
Il a passé un très bon week-end.
Il a fait quoi? Il a été performant.
Joker.
On ne saura pas, mais je rappelle à Florian Karasoumaïan la règle du mois.
En avril, ne te découvre pas d'un fil.
Oui, Florian qui respecte à peu près cette règle, nous avons récupéré le dernier SMS qu'a envoyé l'ami Flo à une personne.
Bien ce soir, dans mon Tipeee, tu verras mon gros zizi.
Florian toujours aussi romantique. Et le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé après une semaine de musique d'amitié avec Super Schnell. C'est le retour de Céline Géraud, le retour des chansons d'amour, le retour de notre histoire avec un medley maison de Pascal et Francky Vincent aujourd'hui.
Le sur nous peut s'effondrer.
Pascal, vous devriez arrêter le massacre. Arrêtez le massacre, s'il vous plaît.
11h, 13h.
Pascal Pro sur Europe 1.
Bonne nuit sur Europe 1. On se retrouve à 11h pour débattre ensemble de l'actualité.
Et pour échanger avec Pascal Pro, il vous suffira de composer le numéro du standard d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Et notez qu'aujourd'hui, mardi, Pascal Pro recevra Antoine Réglé, avocat au barreau de Lille et spécialisé en droit routier. Il sort un livre qui s'intitule « Drame de la route, combat contre l'injustice ». La nuit se poursuit dans un instant avec la Libre Antenne, votre espace de liberté où tous les sujets sont abordés. On va retrouver Valérie Darmon en nouvelle diffusion, mais avant la musique avec Chaka Ponk.
I'm picking where all the girls are driving crazy. I drive him crazy cause I'm sexy. They call me sexy cause I'm hot. Catch my knot. Don't you know I am so hot? Cause I am picking where everything is in a lock, like on me into your thing, I'll make you scream my name. Honey, holy ho, set your goal, make you wonder why I'm cold and distant. I'm cold and distant, yes I am. I'm PK, cause I'm all alone. You know that it is screaming, yes it's screaming, no. I'm PK, cause I'm all alone. I'm a picky one. I got a lot of girls waiting for me not to call. Another Sunday morning on my own.
Porque, porque siempre dices lo mismo. Lo mismo, shy as shy I am. Bim bam bam, I fall down in shame again on me. Cause you laughing with your friends about me with the comportamiento. I'm picking, you're freaking out, dating my hellos and women consistent, too persistent. I'm cold and distant, remember me. And all the girls are driving crazy.
I'm picky,
Piki sur Europe 1, Chaka Ponk, qui a décidé de se consacrer au collectif The Freaks pour être pleinement cohérent avec les préoccupations écologiques du groupe. Donc fini les concerts, d'où la tournée d'adieu qui prendra fin en novembre prochain, précisément du 27 au 29 novembre 2024 à l'Accor Arena de Paris. Elle accueille vos préoccupations chaque vendredi, samedi et dimanche de 22h à 1h du matin au 01 80 20 39 21. C'est Valérie Darmon que l'on retrouve tout de suite dans la libre antenne. Et vous le savez, chaque nuit sur Europe 1, on aime à redécouvrir vos témoignages.
Bonsoir Benjamin.
Bonsoir.
Oh, mais quelle voix dynamique!
Ah bah il faut bien, je suis en plein boulot.
Ah d'accord, alors vous faites quoi déjà pour travailler comme nous à ces heures-là?
Ah bah alors moi je suis chauffeur laitier.
Chauffeur laitier, donc vous avez livré le lait ou vous êtes en train de livrer le lait?
Eh bah en fait je fais le tour des exploitations pour ramasser le lait et puis je ramène ça dans nos usines.
Ah oui, vous êtes dans quelle région?
Lyon.
Lyon, d'accord, très bien. Vous faites ça depuis longtemps, ramasser le lait. Moi, j'adore cette idée, je trouve ça poétique, en fait.
Ah ben, c'est moi, dur ça fait tout juste... Non, le travail en lui-même, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Et moi, ça fait tout juste un an que je suis dans le domaine laitier, entre guillemets. Et juste avant ça, j'ai toujours été dans le transport.
D'accord, très bien. Et là, c'est mieux, le lait ou pas, que le reste?
Oui. Oui, 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 oui. Puis je suis tombé dans une bonne boutique où ça se passe très, très bien. Donc, moi, j'ai signé jusqu'à la retraite, ça me va.
Ah, très bien. Et vous avez quel âge, Benjamin?
43 ans.
Ah oui, bah vous
donc,
avez...
Oui, j'étais à la retraite, j'ai encore le temps de voir venir.
Ouais, c'est ça. Hein. Franchement, alors nous, on a l'habitude de dire sur Europe, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Peut-être que vous avez encore le temps de changer d'ici là, hein, non?
Non. Non, 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 parce que ça me plaît vraiment bien. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas le stress du... Enfin, c'est stressant le travail sur la route. Mais c'est pas stressant, enfin je sais pas comment expliquer ça, c'est pas stressant sans être stressant.
Bon bah tant mieux, en tout cas vous êtes heureux, c'est ça qui compte et ça s'entend dans votre voix. Alors qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? De quoi vous voulez nous parler?
Eh ben moi je venais vers vous pour savoir si c'était encore possible de nos jours de pouvoir rire de tout.
Ouh là là, mais quel sujet! Franchement, alors là, vaste sujet, c'est un peu, est-ce qu'il y a une limite à la liberté d'expression? Alors moi, ça me fait penser à Desproges, Pierre Desproges qui disait « On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ».
Exactement ça.
Hein, voilà, c'est ça. Alors, il y a certains qui vont être évidemment contre cette citation, soit parce qu'ils vont estimer qu'on peut en effet rire de tout, mais avec n'importe qui, soit parce que selon eux, on ne peut pas rire de tout. Voilà, alors est-ce que ça pose la question du fond de la blague ou de la forme qu'on utilise pour en parler? Pas évident hein, comme sujet, là, vous me posez un peu une colle là ce soir à 0h44 un vendredi.
Bah, il fallait bien que je vous embête et que je trouve vraiment quelque chose qui soit tip-top.
Ah bah alors là, carrément, hein, franchement. Alors vous en pensez quoi?
Bah, moi, personnellement, donc je vais vous parler d'une petite histoire qui m'est arrivée personnellement quand j'étais accompagné de ma fille. Voilà, je suis allé dans un magasin But pour acheter un canapé. Mmh. Et le gars qui s'est occupé de nous, en fait, c'était une personne en mobilité réduite dans un fauteuil roulant. Et en fait, on discutait de tout et n'importe quoi. Et puis, à un moment, je regarde ses baskets. Je lui fais, putain, c'est bien quand même. Toi, t'as de la chance. Tu vas pouvoir garder tes baskets le plus longtemps possible. Quoi. Tu vas pas les changer tous les mois. Ouais. Et il m'a regardé. Ma fille, elle s'est décomposée. Alors, elle est vraiment décomposée à côté de moi. Et il m'a regardé. Puis, il m'a répondu le plus naturellement du monde. Ouais, moi, c'est vrai que c'est pas les baskets qui me coûtent le plus cher. C'est les pneus du fauteuil. Mmh. Et j'ai trouvé ça superbe. C'était un échange qui pour moi, en fait, comme si j'avais un échange avec n'importe qui.
Ouais, un échange naturel. De toute façon, c'est sa réalité, sa vérité. Lui, il joue avec et vous jouez avec. Alors moi, je pensais plutôt à des sujets. On en parlait en début d'émission. Donc finalement, ça tombe bien comme quoi tout est dans tout, hein, souvent. La question, c'est est-ce qu'on peut rire, par exemple, du racisme, de l'antisémitisme, de l'homophobie, de la xénophobie, tout ça? Bah, qu'est-ce que vous répondez à ça?
Alors aujourd'hui, malheureusement, Et c'est ce que je trouve très dommage, c'est que aujourd'hui on peut plus sans être attaqué. Alors si on commence à jouer sur le racisme, on va être attaqué de facho. Si on commence à parler des xénogènes, mais tu ne comprends pas, on va se faire attaquer tout pareil. Peu importe le sujet qu'on va aborder, malheureusement aujourd'hui on se fait attaquer. Et ce qui est plus bizarre, c'est qu'on se fait pas spécialement attaquer par les personnes concernées. Mais c'est par les associations qui s'occupent de ces personnes concernées qui nous attaquent.
Ouais, parce que c'est l'union fait la force. Donc plus on est nombreux et plus on a des chances de se faire entendre aussi.
Voilà, et c'est ce que je trouve dommage de plus pouvoir rigoler de tout et de n'importe quoi, peu importe les sujets, et de voir que il faut faire attention aujourd'hui à ce qu'on dit, parce qu'en fait ça peut froisser certaines personnes qui sont autour de nous, ou d'entendre des réflexions t'as vu comment il lui parle, ça se fait pas, c'est quand même une personne handicapée. Ben oui, mais c'est pas parce que c'est une personne handicapée qu'il faut que je parle différemment. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est avoir quelqu'un qui le prenne comme une personne normale, parce que c'est une personne normale.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ça m'intéresse de savoir ce que les auditrices et les auditeurs pensent de cette question. Est-ce qu'on peut rire de tout? Alors ce soir, on ne va pas avoir le temps de prendre trop de monde, puisqu'il est 0h47 et qu'on va se quitter dans 15 minutes. Mais pour demain, en tout cas, ça m'intéresse d'avoir le point de vue de nos auditeurs et de nos auditrices, parce que je trouve que c'est une vaste question. Moi, j'ai aussi une autre question. Du coup, Benjamin, est-ce qu'il ne faut pas que chacun se fixe ses propres barrières?
Ben oui, mais les propres barrières sont celles qu'on nous impose, pas celles qu'on se met.
On nous en imposerait pas si on s'en mettait, peut-être.
Après, qu'il y ait des barrières, je trouve que c'est ça qui va justement être dommage, dans le sens où c'est ce qui va mettre un frein, à la liberté d'expression, mettre un frein sur le fait de pouvoir rigoler avec une personne qui peut être d'origine et de confession complètement différente. Et c'est justement ces barrières-là que je trouve c'est dommage. Moi, je trouve que c'est dommage.
Vous avez trouvé que la société a beaucoup changé dans le domaine? Oui, c'est ça, j'ai cherché le terme.
Oui, oui, oui. Ouais. Oui, un exemple. Je suis des années 80. Mm-hmm. Pour moi, c'était les meilleures années, de toute façon. Même si je suis arrivé dans ces années-là, pour moi, c'était les meilleures années quand même. J'échangerai pas mon enfance que j'ai eue avec celle des jeunes d'aujourd'hui. Ça, c'est hors de question. Mais ce que je vois, un truc tout bête, c'est on reprend des sketchs des Inconnus, par exemple.
Oui.
Aujourd'hui, je les mets au défi d'essayer de faire ça. Sans se faire taxer de raciste, sans se faire taxer de tout et n'importe quoi qui pourrait tomber au nom d'associations, c'est ce que je trouve dommage.
On est trop devenu politiquement correct?
Oui, oui, pour moi, oui. Mmh. Toujours donner cette impression de bien, de toujours paraître, ce côté paraître, et c'est ça qui me gêne. De toujours paraître bien au milieu de cette société, de toujours être conforme à ce qu'on entend, à ce qu'on veut entendre. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que ça enlève ce côté justement qui fait qu'on est chacun différent.
Ouais, et puis l'humour, c'est aussi un moyen de rentrer en contact avec l'autre. Hein. Moi, je trouve que c'est une des plus grandes qualités, l'humour, quand même. Hein.
Et c'est une belle barrière.
Aussi. C'est vrai.
Bon, pour ma part, ça a été une très très grande barrière pendant pas mal d'années.
Alors expliquez-nous.
Une barrière, c'est que en fait, dans le sens où ça m'a posé problème aussi parce que ça s'est retourné contre moi dans le sens où on me faisait comprendre mais toi tu t'en fous de tout parce que je rigolais tout le temps. Mais ça peut être une barrière dans le sens où quand on a des critiques qui sont pas spécialement on sent bien que c'est pas spécialement pour notre bien. Et ben justement, le fait d'en rigoler, déjà l'interlocuteur en face, il se retrouve un petit peu con parce qu'il se dit tiens, je pensais le vexer ou le blesser. Et puis en fait, le fait de voir la personne rigoler, on perd un peu ses moyens et on sait plus trop comment s'y prendre.
Ouais, c'est désarmant.
Voilà. Et moi, je suis déjà très très grand moqueur de moi-même. Donc c'est ce qui fait que pour moi, ça a été une très très grande barrière.
Est-ce que ça vous a permis de prendre la vie aussi au second degré quand il y a eu des moments un peu difficiles?
Oui, trop.
Ah, trop, carrément trop.
Oui, trop. Trop, je sais que je vais pas me faire des amis auprès de l'antenne, mais voilà, moi, ça m'est arrivé de je suis vraiment désolé, hein, mais ça m'est arrivé de taper un fou rire pendant un enterrement.
Mais c'est nerveux, non ?
Ah non, 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 parce que je c'était pas nerveux.
C'est-à-dire qu'en fait, les gens, il y avait des gens qui vous faisaient rire.
Oui. Oui, parce que en fait, c'est après, à cet instant-là, je rigolais en fait de l'hypocrisie que je pouvais voir, de voir des gens, par exemple, qui étaient présents, qui n'avaient pas donné de signe de vie pendant X années et qui étaient là en train de pleurer, oh, mamie, tu nous manques, machin. Mais ça, vous ne l'avez pas vu pendant 20 ans, pas un coup de téléphone, rien. Et là, aujourd'hui, vous êtes là à côté du cercueil, en train de rigoler. Mais je sais pas, c'est. Et du coup, bah, moi, je me suis tapé un fou rire, donc du coup, je suis sorti parce que c'était pas.
Et les gens, ils se sont retournés. Les gens, ils se sont retournés vers vous, non ? Interrogatif.
Un petit peu, oui. Oui. Oui, oui, parce que moi, quand on me regarde, on voit bien que je suis mort de rire. Hein. Je deviens rouge comme une tomate, je chiale comme une madeleine, et je suis mort de rire.
Et votre femme, elle dit quoi ? Vous êtes mariée, peut-être, ou je sais pas ? Alors, en tout cas, l'humour, c'est plutôt séduisant. Alors, j'imagine que vous ne vivez pas seul, Benjamin.
Non, je ne vis pas seule. Voilà. Ma femme, elle trouve ça bien. Mais à des moments, elle aimerait bien que je sois un petit peu moins moqueur.
Démonstratif.
Voilà. Et puis moins moqueur, parce que voilà, je sais que pour elle, tout ce qui est côté handicapé, c'est un sujet qui lui tient à cœur. Et quand elle me voit rigoler avec un handicapé ou me moquer gentiment d'un handicapé, là, je vois tout de suite qu'elle se met en retrait et j'ai beau essayer de me défendre, de dire que je suis vraiment désolé, mais je suis comme ça. Il y a des fois, ça grince un peu quand même.
Donc, elle a eu des grands moments de solitude avec vous ou pas ? J'imagine que oui, hein ?
Oui, 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 oui.
Par exemple ?
Oui, ah, oui, oui. Par
si
exemple,
c'est racontable, oui.
Oh bah oui, oui, moi, il n'y a aucun souci. Par exemple, à Leclerc, de tenir une boîte de capote et de faire « Mon cœur, c'est bien ça qu'il nous faut, c'est cette taille-là » Par exemple. Et tout le monde dans le rayon qui s'est retourné, qui l'a regardé, elle est devenue rouge comme une tomate. Moi, j'étais mort de rire. Et je fais que des conneries comme ça, et moi, j'adore.
Vous avez toujours été comme ça ?
Oui.
Quand vous étiez ado, c'était pratique, non ?
Oui, très. Pour draguer, c'était vachement bien.
Ouais. Draguer et maintenir à distance, c'est-à-dire vous choisissez, en fait.
Voilà. C'est aussi bien que ça peut être une distanciation qui peut être naturelle et qui passe à 95% du temps, ça passe mais vraiment comme une lettre à la poste, mais que ça peut être aussi une bonne attraction dans le sens où c'est attirant de voir quelqu'un qui est tout le temps qui est tout le temps jovial, qui est tout le temps en train de rigoler, qui raconte des conneries. Moi, je joue sur les deux tableaux, en fait.
Et vous vous interdisez aucune blague, Benjamin ?
Alors, tout dépend après de qui m'entoure.
Ah, bah là, on revient à des proches.
Voilà.
Avec n'importe qui. C'est ça ?
Ouais, mais malheureusement, il y a des blagues que je ne me permets pas, justement, parce que voilà, je sais que les personnes autour de moi peuvent éventuellement se sentir visées, alors que c'est une connerie parmi tant d'autres, quoi. C'est ce que je trouve dommage.
Ouais. Moi, je crois que ce qui est important, c'est que l'auteur de la blague, en fait, est toujours dans l'idée de... S'il dénigre ou s'il rabaisse ce dont il parle, ou au contraire, s'il essaye de permettre à son interlocuteur de dédramatiser un événement, en fait. Voilà, par exemple. C'est important de prendre sa responsabilité dans la vanne qu'on fait, ou qu'on ose faire.
Voilà. Et le truc, c'est qu'il y a des fois, je me retrouve dans des positions où j'anticipe en fait tellement les réactions qui peuvent être mauvaises que je me mets des freins. Et c'est ce que je trouve dommage, parce que ça se trouve, je me dis, bon, bah, ça se trouve, je l'aurais peut-être tenté, ça serait passé. Et quand je vois la société d'aujourd'hui, bah, je suis plus souvent à me dire, bah, non, je ne l'attends pas, parce que je n'ai pas envie, que ça tourne en autre boudin, quoi.
Il y a des gens qui peuvent s'énerver, qui se sont déjà énervés avec vos blagues ?
Alors jusqu'à maintenant, ça ne m'est pas arrivé.
D'accord, donc c'est quand même, vous arrivez bien à évaluer avec qui vous riez.
Voilà, et j'emmène ça, je suis quelqu'un, quand j'emmène une connerie, en général, je l'emmène avec le sourire. Je suis déjà, quand j'emmène ma connerie, je suis déjà à moitié en train de rigoler de ma connerie.
Oui, c'est ça. En fait, comme vous êtes tout le temps dans l'autodérision, bah, vous vous permettez.
Voilà. Et c'est vrai que je m'aperçois qu'il y a, il y a pas mal de fois où on me dit « Mais toi, t'arrives à, tu peux te permettre de faire ça ?» Moi, j'essaierais de faire ça, mais ça partirait en autre boulot indirect. Ben oui, mais après, il y a l'art et la manière de l'emmener.
Oui, alors on a un auditeur ou une auditrice qui dit « On peut rire de tout, il suffit de bien choisir ses relations ou ses amis ». C'est bien vu. À l'envers, c'est oui. Bien vu. Hein.
Voilà, donc voilà. Ça veut dire qu'on rit pas de tout avec tout le monde.
C'est ça, exactement. Et on a Rabelais qui dit d'ailleurs aussi, hein, c'est la deuxième formule qui est souvent utilisée quand on parle du rire, c'est que le rire est le propre de l'homme. Donc en fait, il vaut mieux rire plutôt que de pleurer, quoi, grosso modo, hein, quand même.
Moi, perso, à choisir, je préfère rigoler.
C'est ça, voilà. Et dans les enfants, il y en a qui ont hérité de votre humour, Benjamin, ou pas?
Non, parce que je m'aperçois que ça les gêne.
Oui, parce que leur génération, c'est compliqué. Hein. Il y a beaucoup de susceptibilité. Enfin, je ne sais pas quel âge ont vos enfants.
Ah ben, j'ai le petit dernier, il a 14, et la petite dernière, elle en a 9.
Ah oui, alors ça les gêne. Ah oui, alors d'accord. Alors, ouais. Ça gêne lequel des deux? Alors, à 9 ans, on est souvent gêné, de toute façon, par les parents, genre, t'approches pas trop de l'école, des trucs comme ça. Et celui de 14 ans, alors, c'est parce que vous êtes trop, comment dire, presque, bah trop, en fait.
Bah, mais c'est ça, en fait, c'est ça. Voilà. C'est il a l'impression, en fait, enfin, moi, c'est ce que je ressens. Il me donne des fois l'impression, comme si je l'effaçais complètement, d'être ce que je suis.
C'est-à-dire que vous prenez toute la place.
Voilà, et il y a des fois, il me donne cette impression-là.
Et vous en parlez avec lui ou pas?
Ah oui. Bah oui. Moi, je sais que j'ai déjà abordé le sujet avec lui plusieurs fois en lui expliquant que bon bah voilà, je suis comme ça. C'est pas parce que je suis comme ça qu'il faut le prendre mal ou qu'il faut le traduire différemment de ce que je dis. Et je m'aperçois que dans leur génération, c'est pas très compréhensif en fait. C'est dans le sens où je vais aborder certains sujets, bon là j'en ai pas en tête, mais où il va me regarder, il va me dire « Ouais, mais ça se fait pas de dire ça comme ça ». Mais après, comme j'essaie de lui faire comprendre, oui, mais là on en parle au cours d'une conversation sérieuse, et je suis pas dans le ton de l'humour à en discuter en amenant une connerie au bout.
Il y a Carole qui dit « J'adore ce monsieur qui crée du lien ».
Bah, il faut créer du lien.
Bah oui, on en parle tout le temps dans la libre antenne, c'est ce qu'on essaye de faire, parfois avec humour, parfois pas, et souvent, de toute façon, en s'aidant et en s'entraidant. Hein, c'est la base.
Et ça, c'est ce qui fera qu'on sortira toujours la tête de l'eau, peu importe ce qui arrive, c'est ce qui fera qu'on sortira toujours la tête de l'eau, c'est de pouvoir s'entraider les uns les autres. Et bon, c'est sûr que si on a un joyeux luron qui se pointe et puis qui raconte des conneries, qui arrive à soulager ou à faire rigoler dans des moments qui sont peut-être pas spécialement opportuns, bah, moi je trouve que voilà, quand j'arrive à faire mes conneries comme ça, bah, moi, je
ça
me
fait
dis,
du bien.
Allez, c'est nickel, j'ai réussi ma connerie, je suis content.
Et ben merci beaucoup Benjamin d'avoir partagé votre bonne humeur à presque 1h du matin, ce vendredi soir, après votre tournée.
Could bring a fall.
Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous à 0h37 sur l'antenne d'Europe 1 et d'avoir composé le numéro du standard 01 80 20 39 21. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?
Oui, donc moi j'appelle pour me présenter ma vie. Je suis amblyope profond.
Oui.
Vous savez ce que ça veut dire, amblyope profond ?
Absolument pas. J'allais vous poser la question.
Ça veut dire malvoyant.
D'accord, ok. C'est un mot qui existe. Je vais regarder dans le dictionnaire, parce que je ne connais pas ce mot.
C'est un terme qu'on n'emploie jamais dans les associations, mais sur la VH, dans les revues, les dictionnaires, il y a écrit amblyope profond.
Ah, d'accord. Bon, écoutez, si je joue Scrabble, je saurai quoi placer, en fait. Hein. Voilà, tout simplement.
Et donc, ma vie et mon orientation professionnelle est différente par rapport aux deux personnes qui avaient intervenu il y a quelques semaines, qui avaient échangé avec vous, qui étaient non-voyants.
Oui.
Donc, moi, je suis né en 68, et l'année où je suis né... à la maternité, c'était pas la même année ni le même pays, mais je suis pas aussi populaire qu'elle. C'est-à-dire que je suis né le même jour et la même année qu'une chanteuse célèbre qu'on connaît très bien, qui commence par un C, son prénom.
Céline Dion.
Oui, tout à fait.
Ah bon, ben bah, voilà, j'avais une chance sur eux. C'est très bien. Ok. D'accord.
Donc, je continue ma prolongation de vie.
Oui.
Donc, deux ans après, on a découvert que j'avais un glaucome congénital.
Oui.
Et à partir de là, comme l'ophtalmo, c'était une petite ville de campagne, donc elle faisait pas les interventions chirurgicales, et donc elle m'avait envoyé à Nantes, et depuis ce temps, j'ai toujours été suivi à Nantes, donc de 71 à l'âge de 13 ans, j'ai redoublé presque toutes les classes scolaires, parce que j'ai eu souvent des interventions au niveau des yeux. Et après, je suis allé à l'école des non-voyants à Vertoux, à côté de Nantes. J'y suis resté de 81 à 88. Et comme j'avais pas mal de retard scolaire, ils m'ont dirigé faire la vie d'adulte, pour aller dans un ESAT.
C'est quoi ?
Un ESAT, c'est un CAT.
Ah, oui, d'accord.
Maintenant, on appelle ça ESAT. Ça s'appelle plus CAT.
D'accord. Et là, vous avez fait quoi ?
Et là-bas, je suis allée dans le Maine-et-Loire, et c'était un ESAT pour les traumatismes crâniens. Mais il y avait d'autres handicaps physiques et physiques, oui. Et quelques non-voyants. Et comme le travail n'était pas adapté pour les non-voyants, j'y suis resté donc de 81 à 2007. Et toutes ces années, comme il y avait pas, le travail n'était pas adapté, je diminuais mon temps de travail et je faisais des activités. Je prenais des cours de musique avec une prof de musique. Et j'ai quitté en 2007 parce que les dernières... Comme il n'y avait pas de travail, je restais du matin au soir sans rien faire sur ma chaise dans l'atelier.
C'est pas très stimulant. Vous jouiez de quel instrument, Jérôme ?
Alors, avec la preuve de musique, je faisais de l'accordéon. Puis un jour, elle me dit, on ne peut pas tout faire avec l'accordéon. Alors, elle m'a proposé de faire du synthé. Donc, je faisais les deux instruments en prenant les cours à ce moment-là.
C'était riche quand même comme enseignement.
Oui.
Vous avez appris de deux instruments, c'est pas rien.
Oui.
Ça vous a été utile après pour la suite de votre vie, non, en activité professionnelle ou...
Ben après justement, vu que j'en avais marre qu'il m'abaissait et tout ça, enfin bref, et je suis revenu dans les Deux-Sèvres j'avais essayé de faire dans un centre de jour pour faire des activités. Et là aussi, c'était un centre jour d'handicapés mentaux ou physiques et non pour les non-voyants et c'était pas adapté. Donc, j'y suis resté que deux jours parce que j'essayais de faire les activités, mais ils arrêtaient pas de dire, oh, vous pouvez pas faire parce qu'on s'est pas adapté pour vous. Et je vais rester un peu plus longtemps pendant mon séjour, mais je suis resté que deux jours. Et donc après, depuis 24 ans, j'ai acheté une maison. Mmh. Depuis ce temps, je faisais quand même des loisirs, c'est-à-dire des randonnées pédestres où je prenais encore des cours de musique. En même temps, j'avais une auxiliaire de vie qui venait, donc on faisait des activités différentes. Quelques années après, l'auxiliaire de vie, elle a dû arrêter et donc j'ai arrêté de prendre parce que, en fin de compte, les auxiliaires de vie, ils vous aident, les non-voyants, mais comme ils sont pas adaptés aux non-voyants, ils ont du mal à s'y faire avec nous. Et donc, j'avais arrêté. Et après, quelques années après, je vivais avec ma mère et elle vivait gratuitement parce que c'est moi le propriétaire. Et elle, je vivais avec ma mère et ça se passait très bien. Mais depuis 3-4 ans, elle a eu des gros problèmes de santé et elle est décédée il y a un an. Et depuis ce temps-là, le jour du décès de ma mère, les gens, comme vous savez, quand c'est le jour de l'enterrement, les gens ils s'inquiètent pour la situation de la suite, quoi.
Oui, des proches.
Et moi, j'étais vraiment optimiste. Et quelques semaines ou mois après, j'ai échangé avec ma sœur, parce que ma sœur, elle vient de temps en temps avec chez moi, là. Et elle ne travaille plus depuis 3 ans, parce qu'elle aussi, de son côté, elle a eu des problèmes professionnels par rapport à son travail. Donc, elle est en arrêt de travail. Et donc, à ce moment-là, quelques semaines et mois plus tard, on réfléchissait. Et moi, j'étais toujours optimiste. Je pensais qu'on pouvait trouver des solutions. Et j'ai fini par trouver une association qui accompagne les non-voyants, qui accompagne les handicapés pour trouver des solutions, pour trouver des associations ou des intervenants pour venir chez nous pour faire différentes choses. Et avec cette association, je voulais qu'elle m'aide aussi pour mieux connaître mes matériaux spécialisés, c'est-à-dire le VoxyVision et le Voxion, c'est des appareils pour non-voyants.
Oui.
Parce que je les avais achetés il y a quelques années parce que ça m'intéressait et j'ai du mal à tout bien comprendre. Donc, j'ai besoin qu'on me guide un peu pour mieux connaître les appareils. Et cette association a essayé de voir comment on fait et eux, comme ils n'étaient pas adaptés, ils ne pouvaient pas trop me guider pour mieux connaître mes appareils. Et donc, on a fini par trouver depuis quelques mois une association vraiment spécialisée pour les non-voyants. Mmh. Et donc, ils interviennent depuis le mois de janvier. Et là, pour l'instant...
Ils sont formés pour, là, cette fois-ci. Comment ils s'appellent, comment elle s'appelle, cette association, Jérôme?
Ça s'appelle Diapason. C'est à Poitiers, mais ils interviennent aussi dans le département des Deux-Sèvres, parce que moi, je suis dans les Deux-Sèvres.
D'accord, donc Diapason, comme être au diapason, en fait. Hein. Et,
oui.
et ils interviennent sur... donc là, notamment
sur... Il y a plusieurs services. Il y a un service qui accompagne pour tous les services administratifs ou des marches diverses. Et après, pour l'instant, ils ne m'ont pas encore contacté parce qu'il me semble qu'il n'y a qu'un intervenant par service et ils desservent plusieurs départements. Il y a deux autres services qui vont intervenir. Il y en a un que ça sera pour la vie quotidienne, c'est-à-dire relancer des choses de la vie quotidienne d'une maison ou de l'extérieur.
Oui, c'est-à-dire faire du jardinage, des travaux, faire les courses.
Des adaptations pour les non-voyants.
D'accord. Pour apprendre, en fait, à bien se débrouiller,
oui,
c'est ça?
Oui, oui. Et l'autre service, ça sera pour mieux connaître les appareils téléphone et VoxyVision, les fonctions, quoi.
D'accord. Ah oui, c'est... Allez-y, je vous écoute.
Non, je vous écoute.
Alors, non, j'allais vous demander, donc, c'est une association de 1901?
Bon, sans doute, oui.
C'est gratuit, enfin, c'est ça ma question. Est-ce que c'est gratuit?
C'est le conseil général du département qui subventionne ce service.
Oui, voilà, donc c'est gratuit, okay. Et c'est sérieux.
Oui.
Donc, ils viennent, comment ça fonctionne? Ils viennent combien d'heures par semaine?
Pour l'instant, c'est que le service administratif qui intervient, parce que les deux autres, ils ne se sont pas encore manifestés, parce que, comme je vous dis, il n'y a qu'une personne qui s'occupe de chaque service, et ils desservent 4 départements, donc ils ont déjà un emploi du temps privé avec les non-voyants, quoi.
D'accord, oui, ils ont un emploi du temps très chargé, ils ne sont pas très nombreux, hein, en fait, c'est ça.
Oui, oui, c'est ça, parce que moi, je suis intégré dans l'association quoi, depuis le mois de janvier, donc il n'y a pas si longtemps que ça, quoi.
Oui, c'est ça, c'est tout récent. Mais vous vivez avec votre sœur, Jérôme, hein?
Là, ce soir, je voulais parler plus par rapport aux non-voyants, mais ma sœur, pour l'instant, elle est en attente d'être licenciée.
Oui, de son licenciement.
Oui, oui, parce que c'est un burn-out à cause de l'entreprise qu'elle a fait.
D'accord, un burn-out professionnel. Donc je vous posais la question de votre sœur parce que si vous vivez avec quelqu'un, c'est plus facile aussi de se débrouiller. Donc l'association, elle intervient moins, j'imagine. Quand on a quelqu'un à domicile qui peut aider,
Moi, si je fais appel à cette association, en fin de compte, c'est parce que Laurence, elle a des orientations professionnelles en vue, donc on veut faire chacun notre vie, quoi.
Ah oui, c'est pour ça. Donc vous avez besoin de soutien et d'aide. Mais puisque vous avez suivi un parcours quand même dans des écoles spécialisées, contrairement d'ailleurs à Maddy qui intervenait justement sur ce sujet il y a quelques semaines, et puis Max aussi d'ailleurs. Max est un militant de la canne blanche. D'ailleurs, il doit nous écouter parce qu'il nous écoute tous les soirs. Vous savez aussi utiliser la canne blanche, lire le braille, etc.
Justement, quand j'étais sur Angers, moi, ça m'avait intéressé de faire plusieurs fois une remise à niveau de canne blanche. Et depuis 17 ans, je ne fais presque pas de locomotion parce que nous, dans ma région, c'est un peu la campagne, c'est pas comme la ville. Et c'est un peu plus difficile. Et donc, justement, je vais lancer le dossier à Basse Vision à Poitiers pour faire une formation d'évaluation. Et donc, ça sera par rapport à la canne blanche.
Ah oui. Alors, vous avez 56 ans, hein, je crois, Jérôme.
Oui.
Et donc,
oui.
D'évaluation par rapport à la canne blanche, c'est-à-dire pour une remise à niveau, pour voir comment vous vous débrouillez.
Oui, c'est tout à fait ça, oui.
Ah, donc on a besoin... Ça c'est vous qui le demandez ou c'est...
Oui, c'est moi qui veux faire cette démarche.
Pour vous sentir encore plus en sécurité?
Oui, parce que je trouve que c'est très important de se remettre en question par rapport à la locomotion. Moi, c'était comme ça que je le ressentais quand j'étais allongé.
Vous l'avez déjà fait. Vous l'avez fait.
Je l'ai déjà fait trois fois. Là.
C'était ma question. Voilà.
La remise à niveau de locomotion à Angers.
Ah oui, d'accord. Mais parce que là, vous connaissez bien la maison en plus. Donc j'imagine que quand on connaît bien les lieux.
Par contre, par rapport à la commune, je ne connais pas du tout les repères.
Ah oui, et ça prend combien de temps cette évaluation?
Je sais pas trop. Moi, quand je faisais à Angers, ça faisait... À des fois, ça durait 2-3 mois. C'était 1 heure toutes les semaines.
C'est pris en charge?
Moi, quand j'étais à Angers, c'était pas pris en charge. Mais là, je pense qu'avec Basse Vision, ça va être pris en charge, oui.
Et la lecture en braille, vous y arrivez bien?
Je connais l'intégrale et le braille, oui.
Oui, donc vous êtes...
Et l'abrégé.
Vous êtes formé à beaucoup de choses, sauf là, tout ce qui est informatique, là, les nouveaux gadgets dont nous parle Max très souvent, ou Maddy d'ailleurs, sur l'antenne. C'est là où vous avez besoin de diapason, en fait.
Oui, justement, celui-là qui intervient en ce moment au niveau administration, il me disait que je serais très capable d'avoir un ordinateur.
Ben, peut-être que c'est la prochaine étape, non?
Ben, je pense que ça sera ça, oui.
Et là, l'association intervient aussi pour vous guider un peu dans les choix d'ordinateur, etc.
Ben, pas encore tout à fait, parce que comme ça démarre juste là. Mais c'est bien le but des démarches quand même.
Oui. En tout cas, merci beaucoup Jérôme d'avoir pris la peine de nous appeler au 01 80 20 39 21 pour nous faire connaître dans la région de Poitiers cette association. C'est toujours utile de donner comme ça des tuyaux aux personnes qui en ont besoin. Donc l'association Loi 1901, Diapason, essentiellement pour les personnes non-voyantes. Donc, un grand merci, Jérôme, d'avoir été avec nous ce soir sur Europe 1. Je vous souhaite une bonne nuit, déjà, et puis prenez soin de vous, ce que vous faites, semble. Hein. Voilà. Oui. Un grand merci à vous. Un grand merci à vous. Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
Si vous souhaitez écouter d'autres témoignages de la Libre Antenne, eh bien, n'hésitez pas à surfer sur le site d'Europe 1 et l'application aussi, donc europe1.fr. Et puis pour des témoignages en direct, on vous donne rendez-vous ce soir à 22h. Vous pouvez intervenir aussi. Hein. N'hésitez pas à nous laisser un message au 01 80 20 39 21. Et ce soir, vous échangerez avec Olivier Delacroix. À suivre, le meilleur de Sophie et les copains avec Sophie Davant et sa bande. Et pour la musique, voici l'un des groupes français les plus populaires à l'étranger, avec un troisième album bientôt, une tournée en France tout au long de l'année d'ailleurs. Le combo de Charles Dugros de Boisseguin et de la chanteuse Flore Benguigui a décidé d'ensoleiller notre printemps avec Meda Igual. Voici l'Impératrice sur Europe 1.
Linda, me da igual ser linda, me da igual.
le groupe électrofunk L'Impératrice sur Europe 1 qui nous offre ici une bonne dose de soleil dans nos vies avec ce Médaille Gouale en préambule d'une grande tournée d'été puisque L'Impératrice se produira notamment au festival Wheel of Green, Beauregard, Gare au Rock, Les Vieilles Charrues ou encore à Coachella. Bonne nuit avec nous sur Europe 1. Place maintenant à notre grand jeu Sophie et les copains, les meilleurs moments.
Bonjour Marie-Paul.
Bonjour Sophie.
Bonjour Marie-Paul.
D'où appelez-vous Marie-Paul?
Salut Marie-Paul.
De Digne-les-Bains.
Ah, c'est chouette.
Une ville qui est dans les Alpes de Haute-Provence.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, chère Marie-Paul?
Alors, je suis à la retraite.
Oui.
Donc, j'étais infirmière dans un hôpital, mais là, je continue à travailler un jour par semaine.
Ouais.
Et donc je continue toujours dans le même domaine paramédical.
Ah, bravo. Voilà. Vous avez une voix très jeune, donc c'est normal. Ah. Il faut continuer à bosser, c'est bien.
Oui, ça maintient en forme.
Exactement.
Et qu'est-ce que vous faites de votre retraite? Plein d'activités?
Oui, donc j'aime bien la randonnée, le vélo. Je fais des mots croisés, des mots fléchés. Le cinéma, voilà.
Ah, plein de choses,
pas mal.
Et ouais. Vous écoutez Europe 1,
hein, voilà, comme ça. Et j'écoute Europe 1, hein, voilà. Je suis fidèle à votre émission, que je suis depuis septembre, depuis le début.
C'est sympa, Marie-Paul. On va vous poser la première question. Il faut me donner quatre bonnes réponses pour tenter un jackpot à 1000 euros. Et on va jouer tout de suite avec les archives d'Europe 1.
Vous êtes bien sur Europe 1.
Bien entendu, sur Europe 1.
Vous êtes bien sur Europe 1.
Vous êtes bien sur Europe 1, Marie-Paul aussi, vous êtes là?
Oui, tout à fait, oui, je vous écoute.
Aujourd'hui, on va retrouver Guy Marchand, il nous a quittés le 15 décembre dernier. Et là, je vous propose de réécouter une émission présentée par Bérangère Bonte. Nous sommes en 2012, l'émission s'appelle Des clics et des claques. Guy Marchand parle de sa chanson Destinée.
Ah, je ne veux pas dire du mal de Destinée, parce que c'est une chanson que je chante jamais, qui est un gag. Ça m'a beaucoup vexé. Pourquoi? Je venais de faire des disques de jazz, des chansons un peu plus... Et pour les sous-doués en vacances, on me demande d'écrire une connerie.
Alors, comment va-t-il faire pour écrire cette chanson? Ça va être ma question. Est-ce qu'il n'a pas quitté sa chambre dentelle tant qu'il n'avait pas fini? Il avait avec lui un crayon, du papier et du whisky. Est-ce qu'il a fait croire à sa fiancée de l'époque que c'était fini pour être vraiment triste? Ou est-ce qu'il a pris l'été indien à l'envers, la chanson de Joe Dassin?
Non, pas.
La chanson à l'envers, c'est-à-dire il y aurait...
Il prend la fin et il en fait le début.
Non, il prend les textes et il les met à l'envers. Pas à l'envers.
Les textes ou la musique,
voilà.
C'est vrai qu'il y a une similitude entre les deux chansons.
Je suis un peu d'accord. Hein,
ouais. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Il y a une similitude.
Destinée.
À cause de ça, moi j'irai sur cette proposition-là.
Marie-Paul, qu'est-ce que vous pensez?
Moi aussi. Oui,
vous êtes d'accord qu'il y a une similitude entre les deux, Marie-Paul?
Musicale, oui.
Donc je bloque cette réponse.
Ouais, ça sent bon, Marie-Paul.
On va écouter la réponse. Écoutez.
Zidi nous a dit, il faut que tu nous écrives un tube de l'été, mais un truc avec Cosma. Hein. Vous allez m'écrire un truc comme l'été indien. Ben, on a fait l'été indien à l'envers.
Bien qu'il y ait une ambiance très proche. Ouais.
On adore. Moi, j'adore les deux.
Mais c'est souvent le cas, vous voyez. Il y a des artistes qui font des choses extrêmement pointues, presque savantes, ou en tout cas très léchées, et puis ils cartonnent auprès du grand public sur des conneries, des trucs qu'ils écrivent en 30 secondes. Quoi. C'est dur chez certains.
Bah c'est ça qui est formidable.
Ils ont du mal après.
Ce qui est dingue, c'est qu'il a l'air vexé quand même, parce qu'il a dû composer plein d'autres trucs.
Une connerie, c'est ça que les gens retiennent.
C'est le plus marché.
Moi, je trouve ça très bien. Et puis moi, j'adore l'été indien, j'adore Destinée aussi.
Alors, elle est sortie en 82, cette chanson pour le film Les Sous-doués en vacances, et toujours au cinéma, elle est utilisée la même année
pour le slow entre Thierry Lhermitte et Christian
Clavier. Dans le slow, Noël est une ordure
aussi. T'en as dansé des slows, toi, Caroline.
Écoute, c'était le seul truc que je savais faire.
Ah bah depuis, t'as progressé, quoi.
Grave, maintenant je fais des quick steps.
En slow, vous voulez vous laissiez dominer ou pas du tout?
Non, non, en fait, le problème, même les slows, ça me gonflait.
Il faut nous expliquer, c'est quoi le secret du slow?
Bah, ça dépend. Bah, le secret, c'est que tu roules une grosse pelle au mec si tu l'aimes. ou alors, tu lui dis non, j'aime pas cette chanson.
Ça, il faut l'extraire pour le bêtisier, ça. Le secret du slow, tu roules une grosse pelle au mec, tu dis que tu l'aimes. Hop, c'est cool.
Une bonne réponse, il en faut encore trois pour tenter le jackpot. On joue au chiffre du jour avec Marie-Paul. Europe 1.
1 180 000 centimes.
Non.
J'ai fait une erreur dans les chiffres, c'est pas la première fois.
Le chiffre du jour. Le chiffre du jour, Marie-Paul, c'est 202. À quoi correspond-il? Est-ce que c'est le nombre d'œuvres signées Orlinski vendues chaque jour? Est-ce que c'est le nombre de pop-up stores Orlinski ouverts en France? Ou est-ce que c'est le nombre de diamants qu'il y a sur les stylos Bic designés par Richard Orlinski?
Alors...
Marie-Paul.
Il sait pas lui-même.
Il fallait voir la tête de Richard, les amis.
La proposition, si c'était un nombre moyen de 102, moi ça m'étonne. Moi je dirais les stores, la deuxième. Les boutiques.
C'est pas la A en tout cas.
Moi j'ai l'idée.
Ah bah ça tomberait bien parce qu'il faut que tu aides notre auditeur.
Attendez, avant de dire quoi que ce soit, Marie-Paul, vous pensez à quoi vous? Le nombre de pop-up, vous. Et vous, Richard, vous diriez quoi?
Les diamants.
Les diamants. Alors, Marie-Paul, il vaut mieux que vous suiviez peut-être les conseils de Richard, puisque ça le concerne.
C'est quand même lui qui les a fait.
Il connaît le nombre de boutiques, donc c'est pas la deuxième.
Par déduction, forcément. Ouais.
C'est pas la deuxième. On oublie la deuxième, Marie-Paul.
C'est la 3. Alors, on bloque.
On vous
entend pas mal, là. Il faut que vous déplaciez là. Je sais pas où vous êtes parti dans la cuisine.
Sortez des toilettes, Marie-Paul.
Vous êtes où là?
Attendez,
où est-ce qu'elle est partie? Bon, bref, vous bloquez.
Vous entendez mieux?
Voilà,
c'est pas mal.
On bloque la 3, c'est ça?
J'espère que tu t'es pas trompé.
Alors, il s'agit du modèle en or blanc 18 carats, pour être précise.
Voilà.
Parce que vous avez collaboré avec Bic.
Absolument.
Donc là, il y a des diamants, 202 diamants, absolument. Mais il y en a d'autres sans diamants.
Voilà, il y a 100 diamants. Le modèle avec diamants, c'est un modèle très exclusif. Il y en a 12, je crois, plus 4. Et les autres, ils sont effectivement or bronze, or rose. Enfin, on a fait des rues italiennes, on a fait beaucoup de.
Tu sais qu'il les perd tout le temps, t'es content.
Ce qui est amusant, c'est que vous collaborez avec plein de grandes maisons comme ça.
J'adore.
Et justement, on va jouer à propos d'un musée.
Tu bluffes, Martini.
Europe 1.
Il bluffe.
Le bluff.
Pas sûr.
Dans le 16e arrondissement de Paris, au 16 rue de la Faisanderie, se trouve un joli hôtel particulier construit au début du 20e siècle. Au lieu des années folles, le bâtiment devient une annexe de l'hôpital américain lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais en 1951, il va se transformer en musée. Mais en musée de quoi ? Les copains vont vous faire chacun une proposition, chère Marie-Paul. À vous de deviner quelle est la bonne réponse. Qui commence ?
Allez, moi.
Mélanie.
Allez, vas-y.
Alors, vous avez parlé de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'à cette époque-là, en fait, ce bâtiment, cet hôtel particulier a reçu des éclats d'obus, et donc une partie s'est effondrée. C'est là qu'on a découvert une ancienne collection de perruques. Perruques de tous les temps. Et c'est pour ça que c'est devenu, donc, en 51, un musée de la perruque. On a retrouvé des perruques syriennes, des perruques égyptiennes, des perruques grecques. Mais pourquoi vous rigolez, Caroline? J'adore ta conviction.
Perruques syriennes.
Bien sûr,
syriennes.
Vous savez que la perruque, ça existe depuis des millénaires.
Bien sûr,
hein,
bien sûr.
Dans toutes les civilisations,
dans un musée de perruques.
Voilà.
Yvan.
Ah, je ris. Non, moi je vous dis sérieusement que le bâtiment a pris effectivement une nouvelle destinée surprenante, Marie-Paul. Les autorités.
Destinée.
C'est Guy Marchand qui a racheté le musée. Les autorités ont décidé de le transformer en musée des impôts.
Ouais, ça fait rêver, ça aussi.
Pour sensibiliser les citoyens à l'importance de la fiscalité et de la solidarité et de la collecte des impôts.
À mon avis, ils n'ont pas beaucoup de clients. Ça sent le pipeau, ça sent la trompette, là, non?
Après ce qui s'était passé. Je vous assure que c'est vrai, Marie-Paul.
Ouais, moi, je suis sûr que c'est vrai, ça.
C'est vrai.
Caroline,
bien sûr.